Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il parle de son travail avec le vocabulaire d'un tueur à gages. Il dit faire le travail comme ceux qui acceptent un contrat, tue froidement, sans état d'âme, mais dans les règles, propre, sans bavure. Il lui importe que ça se passe bien, une mise à mort sans souffrance, sans cri, ni débordement, sans faire de tâche, un coup sec, rapide, efficace. Il fait un sale boulot, il le sait, mais en le faisant comme ça, en le faisant au mieux qu'il peut, il pense qu'il limite les dégâts, la casse, qu'un autre ferait ça plus mal. Il se présente comme un exécutant qui obéit aux ordres. Tout juste s'il ne se pose pas en victime d'un système tout-puissant, implacable, inextricable, dont il ne serait qu'un rouage. Enfin, attention, pas une petite cheville ouvrière non plus, mais un rouage haut placé. Pas n'importe quel soldat, disons un officier supérieur, un gradé. Au passage, il empoche un salaire aussi confortable qu'un tueur à gages, mais il n'est pas motivé par l'argent. Enfin, c'est ce qu'il dit. Pourtant, un beau jour, il a arrêté de faire le boulot. Il a décidé et il est parti et apparemment rien de catastrophique ne s'en est suivi pour lui. En fait, on dirait même qu'il avait le choix. Ensuite, il a même décidé de raconter tout ce qu'il a fait par le menu et à qui veut l'entendre. Il donne des détails hallucinants de cynisme et de cruauté et les répète à l'envi. On se demande un peu pourquoi il fait ça, pourquoi il accepte d'en parler, tout en n'ayant, dit-il, aucun regret. Il cherche sûrement quelque chose, mais je ne suis pas sûre qu'on veut savoir quoi. Au passage, on en apprend un bras sur ce qui se passe au plus haut niveau des ressources humaines, bien mal nommées, sur les méthodes d'exécution, les techniques particulières qui ont fait le quotidien de Didier Bill, le sniper des RH. On l'écoute tout de suite au micro de Leila Jitli en se souvenant qu'en tout, 35 664 destructions de postes ont été annoncées en France depuis le mois de septembre de cette année et qu'une explosion de faillites et de licenciements est attendue pour 2021.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je suis Didier Bill et en fait, en ce moment, je suis dans ma deuxième grande reconversion professionnelle, puisque j'ai tout d'abord, je vous parle là du siècle dernier, été officier dans l'armée belge, et puis j'ai quitté l'armée. Je suis le premier officier de l'armée belge à avoir pu quitter avant d'avoir fait son temps. Donc j'avais certainement déjà une mentalité d'emmerdeur, puisque pour ça j'ai dû faire un procès à l'armée belge, que j'ai gagné. J'ai repris des études pour devenir ingénieur, et je suis devenu ingénieur. Et mon premier poste à responsabilité, c'était en décembre 1999, c'était à Châteaudun, dans une usine d'environ 1000 personnes, qui était dans l'électronique. Et pendant quelques mois, c'était... énormément de travail, beaucoup de stress, mais du stress positif, parce que la charge de travail était là, et puis il y avait des projets fabuleux qui auraient dû arriver. Fin de l'année, oui, assez rapidement, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, donc tout d'un coup, tout le monde se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'infrastructures, et donc du jour au lendemain, une usine qui débordait de travail, du jour au lendemain, eh bien, vous aviez des gens, des dames, qui venaient avec leur tricot, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. On ne nous a pas demandé de faire partir les gens au début. On nous a demandé de les classer. C'est-à-dire les classer en bon, moins bon, pas bon du tout, etc. Et globalement, l'on m'a demandé que les pas bons, ça devait représenter à peu près 15% des gens. Et avec les managers, nous avons trié les salariés sur base de leurs entretiens d'appréciation qui se fait chaque année. Et puis, on avait 15%. Le gourou de toutes les usines est venu chez nous, en France. On lui a expliqué d'autres diverses choses, et notamment ce qu'on comptait faire. Et nous, les 15%, moi, je lui ai proposé de mettre en place des formations, du coaching, etc., pour les aider à remonter la pente. Voilà, c'est selon moi ce qu'on aurait dû faire. Et il a pas éclaté de rire, mais il a quand même ri. Il parlait français. Il m'a dit, écoute, Didier, mais pourquoi tu te fatigues? Tu les sors. Là, tu vas te fatiguer, tu vas prendre l'argent de l'organisation avec un résultat incertain. Par contre, puisque vous les avez classés, c'est des mauvais, si vous les mettez dehors et que vous engagez d'autres personnes à leur place, forcément, si vous faites du bon boulot, vous allez recruter des gens meilleurs qu'eux. Et c'était mon premier pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le ranking forcé. On nous avait quand même dit, vous devez avoir 15% de pas bon. Et puis, c'est pas bon, ils étaient sortis. On avait les évaluations annuelles, donc les gens sont là. On a les augmentations, on a les bonus qu'ont eu les gens. Bah, vous prenez ceux qui ont eu le moins de bonus, qui ont le moins eu d'augmentation. Vous vous dites un peu naïvement, s'ils n'ont pas eu de bonus, s'ils n'ont pas eu d'augmentation, c'est qu'ils n'étaient pas bons. Et vous avez comme ça votre lot. Alors, heureusement, cette liste de 15% n'avait pas été envoyée aux États-Unis. Donc, voyant où nous allions aller, c'est-à-dire devoir licencier, je l'ai avec mon management. On l'a tout de suite revue, cette liste, et on y a mis tous les CDD, donc des gens qui naturellement allaient partir. On y a mis quelques personnes qui étaient en préavis parce qu'elles avaient démissionné, et on a mis aussi des gens qui étaient tout près de la retraite. Et donc cette liste de 15%, en fait, a été, cette première liste, s'est rapidement vue constituée non pas de mauvais, mais de gens qui allaient partir de toute façon sans qu'on ait à les licencier. Ce premier contact avec les méthodes un peu rudes, j'ai réussi, avec ma hiérarchie qui était d'accord, à la faire passer de manière très soft. Maintenant, malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Le groupe nous a demandé de faire cela cette fois-ci de manière permanente, c'est-à-dire en permanence d'avoir 5% des individus classés mauvais qu'on ferait partir et on les remplacerait. Donc ce que j'ai proposé, on a encore beaucoup de gens tout près de la retraite, et si on les faisait partir ? Si on essayait de faire une espèce de plan de volontariat à notre sauce. Les syndicats, qui étaient très intelligents, ont bien compris que c'était peut-être à jouer. Et ce qui a fini par les convaincre, c'est que j'ai reçu un dictat du Canada. Et ce dictat, c'était de fermer le site. Et donc, on a annoncé quasiment comme cela, à l'ensemble des salariés, si vous voulez quitter l'entreprise, ben, les ressources humaines sont là. Et mon bureau n'a pas désempli pendant 3 semaines. On a fait partir environ 250 personnes comme cela. Il y avait 3 réunions d'un quart d'heure. Première réunion, j'expliquais le processus. Deuxième réunion, on expliquait combien les gens allaient toucher. Et le troisième meeting, ben, on signait tous les papiers. Je pense que la majorité des gens signaient parce qu'ils avaient confiance en moi, ils ne lisaient même pas. Effectivement, tout le monde était d'accord. Ça n'empêche que ce n'était pas légal, mais tout le monde était d'accord. Il n'y a personne qui ait été forcé de partir. En fait, ces gens-là, je les rencontre, clairement. Je les rencontre parce que, comme ce n'est pas un licenciement économique, on les rencontre, il y a une procédure à suivre. Entre guillemets, c'est une très mauvaise explication, mais le fait de pouvoir payer, moi, ça me permet de ne pas avoir trop de cas de conscience. Puis l'argent, c'est un anesthésiant, c'est un lubrifiant, c'est un cicatrisant, ça fait passer beaucoup de choses. Donc je rencontre ces gens en général, et je leur dis clairement, écoute, voilà. La société a décidé de se séparer de toi. C'est pas la peine de lutter parce que la société sera plus forte que toi de toute façon. Et puis tu n'as pas à te remettre en cause. C'est à la tête du client. Aujourd'hui, c'est tombé sur toi. Demain, sera un autre. Donc moi, je te propose, il y a 2 solutions. Soit on trouve un arrangement, c'est-à-dire une transaction financière. Et toi, en échange, tu acceptes de ne pas nous poursuivre en justice. Et puis en même temps, on te mettra un peu de formation dedans, de l'outplacement pour t'aider à retrouver un emploi. Ou bien tu n'acceptes pas de prendre l'argent et tu seras de toute façon licencié exactement de la même manière, exactement à la même date, excepté que tu partiras avec un grand coup de pied dans le derrière, que derrière, si tu veux avoir de l'argent, il faudra que tu ailles au prud'homme. Au prud'homme, ça prendra 2 ans d'abord, environ, et puis si on perd, ça prendra 2 ans en plus parce qu'on va aller en appel. Donc si tu choisis la voie de la confrontation, tu pars et tu auras peut-être de l'argent, mais tu n'en es pas certain, dans 4 ans. N'oublie pas que si tu choisis la confrontation, comme tu pars dans 5 minutes, hein, tu es dans mon bureau, dans 5 minutes tu es dehors, tu n'as aucun élément pour prouver ce qu'on a dit ou pour te défendre. Nous, on pourra choisir. L'avocat va te coûter de l'argent et tu vas traîner ça comme un boulet. Si de futurs employeurs potentiels nous téléphonent pour nous demander ce qu'on pense de toi, ben, ce sera peut-être pas positif. Tandis que si tu choisis la voie non conflictuelle, tu pars tout de suite, tu as un chèque. Si des gens nous appellent pour nous demander ce qu'on pense de toi, ce sera dithyrambique. Et puis, de toute façon, il y aura un autre sourcing pour t'aider à retrouver. 99,99% des gens choisissent la voie non conflictuelle. Et entre guillemets, ça fait partie du talent d'un bon DRH de faire accepter à une personne la voie non conflictuelle. Donc j'ai quitté cette entreprise. Alors j'arrive dans une société qui ne se porte pas bien, elle est sous tutelle, elle n'arrive pas à rembourser ses dettes. Responsabilité européenne, ça se résume à un site de production en France et un site de production en Angleterre, près de Manchester. Et donc, très rapidement, je suis confronté à l'absence totale de budget pour développer les gens, donc pas de formation, pas d'augmentation, etc., mais également une volonté très claire du groupe de réduire les effectifs. C'est quelque chose qui ne m'a absolument pas été communiqué pendant les entretiens. En fait, j'avais même été engagé pour l'inverse, pour reconstruire la fonction ressources humaines. Que nenni, on va plutôt me demander de fermer un site. Donc je vais fermer le site de Manchester. La procédure, c'est la même qu'en France, excepté qu'elle est beaucoup plus rapide, et que les gens, là-bas, sont résignés. Alors moi, je dis résignés, d'autres vous diront que c'est la mentalité, là-bas. Voilà, c'est la vie pour eux, un site ouvre, un site ferme, c'est ainsi. C'était pas ça le plus dramatique. Le plus dramatique, c'est qu'en Angleterre, beaucoup de gens avaient opté pour se bâtir une retraite en investissant dans l'entreprise où ils étaient salariés. Et là, le fonds de retraite, il avait fondu, donc il n'y avait plus rien. Vous aviez des gens qui étaient à 2-3 ans de la retraite et qui savaient donc maintenant qu'ils allaient devoir travailler jusqu'à la fin de leur jour parce qu'ils n'avaient plus de retraite. Mais je n'y étais pour rien. La société n'y était pour rien encore que. Donc l'Angleterre fermée, on a commencé à diminuer les effectifs aussi en France et c'est là qu'on a fait ce que moi j'appelle les licenciements au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de PSE, on ne fait pas de plan de sauvegarde de l'emploi. Non, on va faire quelques personnes de ci, de là, pour un oui, pour un non, pour des prétextes futiles, on va diminuer les effectifs. Et on avait même un objectif qui nous était donné par le DRH groupe, c'était d'en faire 5 par mois, qui venait s'ajouter obligatoirement au départ naturel, fin de CDD, départ à la retraite, démission. Les managers devaient nous fournir les cibles, nous fournir un argument, même si l'argument était bénin, même si l'argument ne tenait absolument pas la route, la question n'était pas là. On avait l'ordre formel et militaire de diminuer les effectifs. Une des méthodes, alors c'est très simple, l'une des méthodes pour remplir la liste noire, c'est les fameux rankings forcés, sous-notation forcée, où les managers, quand ils font les entretiens annuels d'appréciation de leurs équipes, reçoivent un dictat qui est, dans vos équipes, vous devrez avoir X% dans la catégorie la plus basse. Et vous ne pouvez pas y échapper. C'est fait d'ailleurs au travers d'un logiciel. Donc, quand le manager rentre ses appréciations, il a beau taper des tas de phrases, etc. À la fin, ça se résume quand même par une cotation qui va de 1 à 5, ou de, parfois c'est des mots, mais 1 à 5, 1 étant le plus bas. Et bien on lui dit, tu devras avoir autant de pourcents de 1. Et globalement, il ne peut pas faire autrement. Le logiciel ne l'autorisera pas à faire autrement. Donc, il va le faire. C'est tous les ans, mais il arrive qu'en cours d'année, on va quand même modifier la notation de quelqu'un. Et donc, les 1, ceux qui ont été classés le plus bas, sont remontés. Souvent, il y a encore une passe plus haut où on en rajoute quelques-uns parce qu'on estime que les Français, souvent, n'ont pas été assez agressifs dans leur notation. Et puis, tous les gens qui sont en 1 vont rejoindre une liste. La plupart du temps, ils n'ont pas fait de mal. C'est le manager qui les choisit. On pourrait dire que tout le monde a le choix, mais il n'a pas le choix, sinon c'est lui qui va sauter. Et j'en ai d'ailleurs jamais vu qui ait dit « non, je ne mange pas de ce pain-là ». Ça peut être des critères tels que c'est une jeune femme, elle vient de se marier... Mon avis, elle va bientôt tomber enceinte. OK, de toute façon, elle va partir. On va la sortir. Ça peut être quelqu'un qui est trop âgé. Et on espère pouvoir le remplacer par quelqu'un de plus jeune. Ça peut être des personnalités qui ne sont pas assez dociles. Ça peut être des personnalités qui risquent de lui faire de l'ombre. C'est vraiment à la tête du client. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, une fois que, malheureusement, le nom d'un individu arrive sur cette liste noire, c'est très difficile de l'en enlever. Ça ne signifie pas automatiquement sa condamnation au licenciement. Ça dépend de l'état de la société. Si c'est une année qui est une bonne année, si on n'a pas trop d'économies à faire, on aura l'autorisation de faire de la formation, de faire du coaching, d'essayer d'en sauver quelques-uns, pas tous. Si par contre, on approche de la fin de l'année et qu'on n'est pas certain de faire les résultats, il faut faire des économies. Et donc là, on va avoir une pression très forte qui va être exercée sur les ressources humaines pour faire partir ces gens-là le plus vite possible. Sachant que de toute façon, au moins une fois par mois, on avait une revue de cette liste. On y allait nominativement. Non, pardon, qu'est-ce que vous avez pour celui-là? Qu'est-ce que vous avez pour celui-là? Pourquoi est-ce que celui-là est toujours dans la société? Pourquoi une formation pour celui-là? Pourquoi pas le virer, etc. Et on devait se justifier sur tous les cas. On n'a pas à remettre en cause la liste. C'était de l'exécution pure.
France Culture, les pieds sur terre.
Qu'est-ce que l'on constate depuis le début des années 90? C'est que le nombre de licenciements pour motifs économiques ne cesse de diminuer et que le nombre de licenciements pour motifs personnels ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, il suffit de regarder la courbe pour s'apercevoir que l'on continue chaque année à licencier de plus en plus pour raisons personnelles et de moins en moins pour raisons économiques. Parce que c'est moins contraignant, parce que c'est moins coûteux. Quand dans un cas de licenciement où on a malheureusement, la personne choisit la voie conflictuelle, ben, on va avoir une conversation avec où je vais devoir lui reprocher quelque chose. La plupart du temps, les dossiers sont très très maigres, puisque, bien entendu, il n'est pas dans mon bureau parce qu'il a fait quelque chose que l'entreprise lui reproche, il est là simplement parce qu'à un moment, quelqu'un a demandé qu'il sorte. Donc, je vais, avec son manager, parce que je ne peux pas le faire tout seul, avec son manager, on va essayer de trouver quelque chose, en général, une broutille, on va être très clair, qu'on va monter en épingle. Je vais lui exposer cette broutille. Son manager s'était contenté, à l'époque, de lui faire remarquer qu'il devrait faire attention, et puis c'est tout. Ça n'avait pas été plus loin, ce qui vous montre que c'était une broutille. Mais quand, tout d'un coup, il faut sortir cette personne, et que je demande au manager, bon, t'as quelque chose dans ton dossier? Le manager, il lève un peu les yeux au ciel, il dit, bon, oui, il y a 2-3 semaines, il y a bien un mail qu'il a envoyé. Et ben voilà, on a notre astuce. Et donc, ben ensuite, on a la victime devant nous, et comme il n'a pas choisi la voie non conflictuelle, ben, on lui expose ce qu'on lui reproche. Et effectivement, à ce moment-là, il va tenter de se défendre. Et donc, il est en train de nous fournir les arguments qu'éventuellement son avocat utilisera plus tard. Et ça va nous aider, nous, effectivement, à bâtir sa lettre de licenciement en répondant déjà ou en évitant de décrire certaines choses qui iraient nourrir son système de défense. Et on écrit des choses qui vont déjà torpiller une partie de son système de défense. Le rapport de force entre le salarié et l'entreprise est tel que quand l'entreprise a décidé de se séparer du salarié, le salarié n'a strictement aucune chance. Maintenant, quand vous avez dans l'entreprise des syndicats forts, effectivement, ça ne vous empêche pas de faire ce genre de choses, mais ça limite quand même la casse et la quantité. En environ 25 ans, j'ai dû licencier un millier de personnes, les trois quarts au travers de procédures collectives, les 200-220, comme j'ai dit, par volontariat, et puis ensuite des licenciements individuels. Alors, j'ai dit une cinquantaine de licenciements individuels pour cause, c'est-à-dire pour faute la plupart du temps. Et sur ces 50, je pense qu'il y en avait peut-être, je ne vais pas dire une vingtaine qui étaient justifiées, je n'aime pas le terme justifié, mais sur lequel il y avait un vrai dossier, et une trentaine qui ont été, bah, c'est simplement parce qu'à un moment, leur nom est apparu sur une liste et qu'on nous a demandé de le faire. Alors, si on peut comparer un sportif, c'est plutôt l'archer, la personne qui fait de l'arc à flèche et qui vise le centre de la cible, qui est hyper concentré, et donc il doit tout contrôler. C'est plutôt cela. La réussite ou non, ça va se faire en quelques secondes. Moi, j'utilise parfois le terme de sniper, c'est-à-dire tireur d'élite. On désigne la cible. Le travail du DRH, mon travail, c'est de faire en sorte que la cible soit touchée. J'ai eu des licenciements plus difficiles que d'autres. J'ai eu des licenciements qui font que je me suis interrogé. Mais avant 2014... Je n'ai pas remis en cause le système. Je ne m'interrogeais pas beaucoup, très clairement. Mais c'était mon métier, donc je le faisais parce que c'est ce qu'on me demandait de faire. Oui, j'étais performant, puisque quand je traitais un cas, c'était rapide, il n'y avait pas de bruit, et personne ne s'apercevait du départ. Je ne fais, moi, plus la différence entre des licenciements avec une faute réelle ou des licenciements où il n'y avait pas de faute. Pour moi, un licenciement, c'est du sale boulot. Il y en a qui sont plus sales que d'autres, mais c'est du sale boulot. Et quelqu'un un jour, quelqu'un de mon équipe, me demandait, Didier, c'est quoi un licenciement réussi? Et j'ai répondu, le licenciement réussi, c'est un licenciement dans lequel la personne sort la tête haute de ton bureau. C'est pas la peine qu'il sorte du bureau cassé. Et dans le cas des licenciements, entre guillemets, bidons, là aussi, la personne, pour moi, doit sortir la tête haute en disant, voilà, je suis écrasé par une machine, mais je peux me regarder dans la glace, cette machine n'a rien à me reprocher. Marie-Antoinette était une personne qui avait 30 ans d'ancienneté dans la société, qui avait 60 ans, donc pas la meilleure période. Et la société, en début d'année, avant mon arrivée, avait décidé qu'elle devait réduire les effectifs du siège. Donc le manager du département qualité est venu me trouver en disant « Ben voilà, je dois faire moins un. J'ai décidé que ce serait Marie-Antoinette. » Pourquoi ? Parce que Marie-Antoinette, l'une de ses grandes compétences, c'était d'être parfaitement bilingue français-allemand et que nous n'avions plus de clients en Allemagne. Elle avait d'autres compétences, mais voilà, il fallait, entre guillemets, il en fallait bien une, c'est elle. Je lui ai simplement demandé quand devait-elle partir et combien. Et puis ensuite, je lui ai demandé, bon, et qu'est-ce qu'on a dans le dossier ? Rien. Bon. Combien ? Donc j'ai fait le calcul quand même, en disant, bon, on n'a rien dans le dossier, donc si elle va au prud'homme, elle va gagner. Et globalement, je fais un calcul, 2 ans de salaire. Ouais, c'est très facile à calculer, croyez-moi. Et le PDG me dit, bon, c'est pas un problème. On fait une bonne année, on a de l'argent, 2 ans de salaire, c'est pas grave, on y va. Bref. Voilà, donc le sort de Marie-Antoinette est décidé. Je la vois un vendredi soir. Je lui dis tout de suite, quand elle rentre dans mon bureau, la société a décidé de mettre fin à votre contrat. Et puis je continue en disant maintenant, voilà, je sais que c'est difficile, etc. Mais c'est ainsi. La société ne reviendra pas sur sa décision. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas fauté, il n'y a rien dans votre dossier. Et puis je lui explique, donc il y a 2 voies. Comme je n'étais pas très à l'aise, je lui donne aussi le nom de 2 avocats. Et elle est sortie dans mon bureau, ça a pris 1 quart d'heure. Elle a été rechercher ses affaires dans son bureau, elle est partie. Et je ne la reverrai que 5 jours plus tard pour son entretien. Donc il y a une convocation et puis un entretien. Bon, ce qui m'a perturbé, c'est que je n'étais pas perturbé. Or, statistiquement, elle est professionnellement morte. Peut-être est-ce une illusion, mais jusqu'alors j'avais l'impression de ménager la chèvre et le chou, ou de limiter les dégâts. Dans le cas de Marie-Antoinette, je ne pouvais plus me le dire. Et c'est ça qui fait que j'ai décidé d'arrêter. Si je n'étais plus capable soit de limiter les dégâts, de m'halluciner moi-même en me disant que je limitais les dégâts, je ne pouvais plus continuer. Et 3 mois après, j'ai arrêté les ressources humaines, définitivement. J'avais peur de devenir un salaud. Et clairement, dans le cas de Marie-Antoinette, je l'étais. Mais j'avais peur que ça devienne une habitude. Ça viendra, peut-être, mais je n'ai pas mauvaise conscience. Maintenant, Jacques Brel disait, les gens qui ont bonne conscience ont souvent mauvaise mémoire. Donc peut-être que j'ai mauvaise mémoire. Si j'ai changé de poste quasiment tous les 3 ans, c'est parce que tous les 3 ans, entre guillemets, j'avais bien souvent épuisé tous les trucs et astuces que je connaissais pour éviter de faire le sale boulot. Et aujourd'hui, à part quelques cas, j'ai pas mauvaise conscience. D'autant plus que, je le répète, ce que j'ai fait, j'ai pu le faire parce que la loi l'autorise. Et quand la loi ne l'autorise pas, les risques sont minimes. Et quand, malgré tout, on est pris la main dans le pot de confiture, les sanctions sont insignifiantes. Ensuite, les syndicats ne s'opposent pas beaucoup et les salariés eux-mêmes ne se mobilisent pas pour se défendre les uns les autres. Si je l'ai fait, c'est que, entre guillemets, je pouvais le faire. Ensuite, vos problèmes de conscience, vos problèmes de valeur, vos problèmes de se regarder dans la glace, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est à vous de régler ça tout seul avec vous-même, parce qu'il n'y a personne pour vous aider. Et donc, même si vous pensez de manière théorique, oui, je devrais licencier, vous ne savez pas ce que c'est tant que vous ne l'avez pas fait. La première fois, moi, j'en ai pas dormi. Et puis, petit à petit, on s'habitue. Petit à petit, on s'habitue aussi à cette violence. Je trouve des tas de justifications. Un licenciement, c'est quelque chose de très, très violent. Je commence simplement à m'en rendre compte maintenant. Je m'en rendais pas compte alors, parce que ça se passe entre guillemets entre gentlemen. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pleurs, on signe un chèque, on signe des documents. C'est ritualisé, c'est processé, de manière à canaliser cette violence, de manière surtout à ce qu'elle n'éclate pas sur le lieu de travail. Mon salaire le plus élevé était de 160 000 euros. Ce qui est un salaire élevé. Moi, si ma conscience s'est tue, je pense que c'est vraiment parce que j'ai écouté les théories qui m'arrangeaient, j'ai écouté les gens que ce qui m'arrangeait d'écouter pour ne pas trop me poser de questions. Mais c'est pas le salaire. Mes deux derniers employeurs, dont celui de Marie-Antoinette, j'ai été licencié. Et aujourd'hui, c'est dans les mains des prud'hommes. Dans le premier cas, c'est parce que je me suis opposé à la politique sécurité de l'entreprise. Ou en tout cas, je me suis opposé à l'absence de politique sécurité de l'entreprise. Et dans le deuxième cas, c'est parce que j'ai refusé de licencier des gens. J'ai pas envie de repentance. Par contre, j'ai envie d'utiliser les très nombreuses années qu'il me reste à faire autre chose que de casser. Souvent, en comité d'entreprise, j'enviais les gars en face, c'est-à-dire les syndicalistes, les élus, en me disant, eux au moins, ils peuvent vivre selon leurs valeurs et selon leurs convictions. Et le nombre de fois où j'aurais voulu leur dire, mais je suis d'accord avec vous, et ou non, j'étais obligé de tenir une position qui n'était pas celle que je voulais tenir, je pense que c'était quasiment chaque mois lors des comités d'entreprise. Mais non, je ne suis pas droit dans les bottes. Ce que j'ai déjà dit, et je vais le répéter, c'est que quand on parlera de repentance, de remords ou de regrets, ma réponse sera toujours « non, je ne regrette pas ». Je pense que c'est beaucoup trop facile de la faire à la Lance Armstrong, de venir avec son beau petit costume du dimanche, bien bronzé, et puis de verser une petite larme en ayant l'air malheureux, en disant « ouais, j'ai endoffé tout le monde pendant 15 ans, je le regrette, et puis si vous me connaissiez un peu, vous saurez que je suis vraiment un mec super sympa ». Non, non, c'est trop facile. C'est trop facile, et pour les gens qui souffrent à cause de moi ou qui souffrent à cause d'autres comme moi, je pense à la limite, ce serait même insultant.
C'était Didier Bill, le sniper des RH, un reportage de Leïla Djiti réalisé par Clémence Gross avec un coup de main de François Connac. Sachez que depuis la première diffusion de ce reportage en avril 2018, la prise de parole publique de Didier Bill a été fortement critiquée par ses pairs, mais sur le long terme, il a également eu beaucoup de soutien, nous dit-il. Aujourd'hui, il est devenu consultant privé, toujours dans les ressources humaines, mais il s'occupe, dit-il, de créer du lien et de réorganiser des services. Mélissa Fou, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et François Bréus, c'est notre stagiaire. I think you could.